요리는 마음을 비치는 거울이야.
RPH déroule le tapis rouge à la 61e rencontre cinéma de Pézenas. Retrouvez chaque jour les intervenants, les cinéastes et l'équipe du festival.
Antoine Page, vous figurez sur la liste des invités de la 61e édition de la rencontre cinéma de Pézenas. Et vous allez, en particulier pendant votre séjour dans la ville, présenter un film Toubib qui sera présenté ici en avant-première, mais dont la sortie en salle est prévue pour le mois d'août 2024. On en reparlera un peu plus tard si vous le voulez bien, mais dans un premier temps, j'aimerais bien qu'on fasse un peu plus ample connaissance avec vous. Vous avez suivi des études d'histoire de l'art et du cinéma à la Sorbonne, à Paris bien sûr, et c'est là que vous avez réalisé vos premiers films dans une veine expérimentale, est-il écrit. Qu'est-ce que l'expérimental ?
En effet. Même pour moi, parfois c'est difficile de savoir. Disons que c'est une veine non narrative. Ça raconte pas forcément d'histoire, ça peut évoquer ou provoquer par le montage des expérimentations, des tests formels. Donc parfois il y a des films assez violents. Ma prof, donc Nicole Brenes de l'époque, au lieu de nous demander de soumettre des partiels écrits, on pouvait proposer des films. Et c'était génial. Parce que les cours de Nicole Brenes, c'était incroyablement stimulant, par la diversité justement des choses qu'on nous montrait, qui tranchaient par rapport au cinéma, disons, conventionnel. Donc il y avait toutes sortes de films. Et moi, ça m'intéressait d'expérimenter, surtout par le montage, et de créer des ruptures, créer justement une sorte de violence, entrechoquer les images, un peu dans la veine du montage à la russe, disons, genre Eisenstein et tout ça. Mais bon, j'étais étudiant, je testais plein de trucs. Ça, ce qui est intéressant dans l'expérimental, c'est des tests, en fait, des essais, pour voir comment, la puissance, disons, du médium cinématographique. Donc j'ai plutôt commencé comme ça, se passer en festival, et après j'ai plutôt choisi de m'orienter vers le documentaire, tout en conservant quand même un tropisme pour les essais aussi expérimentaux. Donc c'est possible au sein d'un film classique de tester des choses en montage et d'intégrer des passages soi-disant expérimentaux à un film conventionnel. Mais c'est juste des manières, en fait, d'évoquer, d'émouvoir, de toucher, de provoquer, quoi.
On est davantage sur des recherches formelles.
C'est ça, ouais.
Sur le narratif.
En fait, ça raconte une histoire. Moi, j'aime bien raconter une histoire, puis c'est l'art cinématographique, ça, c'est quand même raconter des histoires. Mais on peut les raconter soit en filmant des gens qui parlent, mais aussi en filmant des paysages, en retravaillant l'image, éventuellement, en jouant sur la dichotomie entre le son et l'image. Enfin, il y a plein de manières, en fait. C'est assez infini, hein, le langage cinématographique. Donc c'est sûr que j'ai des sujets, mais moi le sujet m'importe assez peu, parce que je trouve tous les sujets potentiellement intéressants. Ce que j'aime, c'est trouver des formes cinématographiques à des sujets. Donc c'est un peu ça mon truc.
Votre recherche a porté sur le fait d'une forme la plus efficace possible par rapport à un sujet que vous aviez saisi.
Par exemple, mais après ça dépend vraiment des projets. Il y a des projets, par exemple, de documentaires où c'est que des entretiens, d'autres où c'est que dans l'image. Par exemple, C'est assez bien d'être fou, c'était quasiment muet, c'était uniquement donc visuel sur un mélange de dessins, de vidéos et tout ça. Mais j'ai fait aussi un documentaire sur le Cercle Plume où là c'est plutôt des entretiens. Après, il y a manière et manière de faire des entretiens. C'est plutôt moi ce qui m'intéresse, c'est plutôt les temps de réflexion, le temps long, les erreurs. Enfin, je cherche pas forcément la grande histoire, mais plutôt les petites histoires, disons, humaines, quoi, pour qu'on puisse identifier le perso.
Le champ de vos investigations s'avère donc être plus le documentaire que...
Oui. Alors ça, c'est dû aussi à mon désir d'être indépendant, en fait. Ça, c'est important, et c'est très compliqué d'être indépendant dans le cinéma, disons, de fiction. Parce que là, c'est quand même, il faut faire partie d'un réseau, en fait. Il faut alimenter le réseau, Ouais, je déteste le réseautage, et moi, j'aime bien pouvoir travailler aussi dans mon coin, tester des choses, ne pas dépendre de gens, moins dépendre de l'argent aussi. Quand on fait de la fiction, on est très tributaire quand même des budgets qui sont quand même bien plus élevés que pour les documentaires. Donc même si le cinéma de fiction m'inspire vraiment, disons que moi, je trouve mon espace de liberté dans le domaine du documentaire, où j'arrive quand même à produire mes films, mais en étant indépendant, quoi. Donc,
au bout d'un certain temps, en 2009, vous quittez Paris et vous allez vers le Jura. Pourquoi plus particulièrement le Jura ?
Bon, un peu un hasard. Moi, je suis natif de Besançon, donc bon, c'était pas très loin. Et bon, Paris, moi, j'ai vraiment toujours bien aimé, mais j'allais de pas gagner beaucoup plus d'argent. J'ai choisi quand même de faire plutôt des projets personnels et pas d'institutionnels. Bon. Et j'avais un tout petit appart, donc classique à Paris. Donc, je commençais à réfléchir à trouver un endroit. J'avais pas vraiment d'idée. Et puis, en allant voir un ami, donc à côté d'Arbois, dans le Jura, qui avait un atelier au sein d'une friche, une ancienne usine de carton. Là, il y avait une maison abandonnée au milieu de la friche, l'ancienne maison du directeur de l'usine de carton. Et là, j'ai trouvé génial, parce que c'était un lieu... ça n'allait pas être une résidence pour vivre, ça allait être vraiment un lieu de création, un lieu de travail, un lieu de résidence. Plus tard, j'ai développé cette activité-là. Donc voilà, donc j'ai quitté Paris, j'ai eu beaucoup plus d'espace, je me suis installé dans cette maison. J'ai monté une société de production donc, qui s'appelle la maison du directeur, en hommage à l'usage de la baraque. Et voilà, c'est comme ça que j'ai continué. Moi, je suis resté 8-10 ans à Paris, je crois. Et là, ça fait 12 ans, je pense, que je suis dans le Jura.
La maison de production que vous avez montée, c'était un souci de répondre à votre envie d'indépendance.
Mmh. Oui. Ben, c'était d'éviter les intermédiaires, surtout, parce que quand on est réalisateur, donc quand on veut produire un film, il faut à chaque fois trouver une société de production. Donc, c'était jamais la même. Ça se passait plutôt mal à chaque fois. Donc, c'était long. Donc, je me suis dit, je vais monter une société de production. On a fait ça avec des amis, pour éviter justement ces intermédiaires et pouvoir direct être les interlocuteurs des chaînes de télévision, parce que c'est un peu comme ça que ça se fait la chaîne. Voilà, donc ça a été compliqué, hein, parce que la production, c'est quand même pas évident. Bon, ça n'a pas duré forcément, ça a duré 5-6 ans, la société de production, qui maintenant est devenue une association de production, avec qui je coproduis, enfin en général je m'associe pour coproduire des films. Mais c'est évidemment par souci d'indépendance. Ouais, ouais.
Le choix d'un statut associatif, c'était là aussi quelque chose qui refusait, un petit côté institutionnel qu'on a pu avoir.
Au début, c'était une société, justement. Parce que pour, c'est un peu technique, mais pour avoir les subventions du Centre national de la cinématographie, du CNC, il faut des sociétés. Donc, sauf que notre société a quand même périclité suite au film, c'est assez bien d'être fou, parce que c'est quand même difficile d'associer l'artistique, la production. Enfin, c'est quand même deux domaines qui ont du mal à marcher ensemble, qui doivent marcher ensemble pour faire un film, mais qui ont quand même bien du mal à cohabiter. Et donc après, c'est devenu juste une association, ce qui fait que maintenant, je m'associe quand même à des sociétés pour pouvoir avoir les financements du CNC. Mais je suis quand même partenaire en tant que production associative. Donc ça me permet de garder la main sur le montage, enfin sur le projet, en fait, du début à la fin, quoi.
J'ai eu l'occasion de lire que pour laisser venir les sujets sans forcer les événements, vous étiez une fois tiré au hasard du nom d'une ville. ville dans laquelle vous avez rencontré plusieurs adolescents sur une place, et plusieurs documentaires sont nés de ces rencontres. C'est une façon de procéder ponctuelle. C'est le souci peut-être de laisser venir les sujets sans forcer les événements, cela est peut-être plus constant,
un peu moins
anecdotique.
C'était quand même une expérience qui était assez intense, et puis qui découlait en gros de la manière dont on fait les documentaires. C'est toujours pareil, c'est qu'on est obligé de les écrire avant pour les financer. Donc, c'est-à-dire que pour le documentaire, on vous demande très précisément, les chaînes de télé vous demandent de tout scénariser. Ce qui est quand même aberrant pour du documentaire, on se dit. Parce que moi, évidemment, c'est l'imprévu, c'est de pouvoir rebondir, changer d'idée en cours de route, enfin bon, m'adapter aussi aux gens. Et donc, c'est toujours comme ça. Donc, je m'étais dit, je vais faire complètement le contraire, aller dans un lieu pour faire des films, sans savoir lesquels, et de manière complètement hasardeuse, parce que je suis persuadé que tout est potentiellement intéressant en sujet. En fait, je ne suis pas intimidé par l'absence de sujet. Et c'est vrai que j'avais fait ça. Je suis tombé sur une ville du nord de la France, qui s'appelle Aniche, à côté de Valence, de Douai, tout ça. Et de Valenciennes, d'ailleurs. Et donc, j'ai pris le temps d'attendre qu'il se passe des choses. Donc, j'ai filmé plein de gens, des bistrots, des trucs comme ça. Et puis, c'est vrai qu'après, par hasard, j'ai rencontré une bande d'ados sur une place du village. Et j'ai décidé de filmer leur quotidien. Et des films sont nés. Il y a eu aussi des discussions avec eux. Donc, on a fait des entretiens aussi de manière un peu informelle et tout ça. Donc, c'était une forme super libre. Et c'était intéressant de pas être bloqué, disons, dans une forme, dans une norme, dans une durée. En général, on impose une durée avant même d'avoir commencé les projets. Enfin, c'est compliqué. Donc là, c'était vraiment une expérience de liberté, en fait, de création assez absolue.
Donc, la maison du directeur, ça a été donc le siège d'une société de production. Mmh. Mais vous avez voulu aussi en faire un lieu de création et de résidence pour accueillir des artistes indépendants en leur offrant le moins de contraintes
c'est exactement
possibles
ça. Ouais.
qu'ils auraient rencontrées dans d'autres circuits, dans d'autres...
C'est un lieu de création que j'espère un peu hors du monde, où on peut juste se concentrer sur ce qu'on fait sans prendre en compte d'éventuels paramètres de production, d'argent, de commandes, de trucs comme ça. Parce que c'est un peu ma manière de fonctionner, donc je me dis que ça peut convenir aussi à d'autres, et c'est vrai que ça fonctionne assez bien. Après, moi, je peux pas, il n'y a pas de bourse, parce que j'ai déjà bien du mal à financer mes projets, mais c'est un lieu que je prête complètement gratuitement et qu'accueille des artistes dans plein de domaines différents.
À l'occasion de cette 61e rencontre de Sylmad Pesnas, j'ai eu la possibilité et le plaisir d'interviewer Manuel Millet, qui fait partie de l'OCDE. On retrouve, à travers ce que vous nous avez dit jusqu'à présent, un certain nombre de similitudes quand même avec les objectifs de l'OCDE. Vous avez des contacts, des relations avec cette association ?
C'est vrai, oui. Non, pas spécialement. J'ai rencontré aussi Emmanuel. Je connais certaines personnes de l'ACID et j'aime bien leur boulot, surtout. Généralement, j'aime bien les films qu'ils ont soutenus. Mais non, j'ai pas de rapport particulier avec eux. Ouais. J'ai jamais été soutenu par l'ACID, j'ai jamais vraiment proposé. Mais si, Toubib, je crois que j'ai proposé. Mais c'est récent. J'ai pas encore été recalé. On verra. Je lui dirai.
Tous les espaces sont permis.
Ouais.
Ben écoutez, vous me tendez la perche pour la transition. Donc, Toubib, c'est le dernier film que vous ayez réalisé. Mm-hmm. Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire ? L'histoire, d'abord, peut-être.
L'histoire, elle est simple. L'histoire, c'est une histoire de frère. Donc, j'ai proposé à mon frangin, qui a 13 ans de moins que moi, quand il a eu son bac, de filmer toutes ses années d'études à venir. Il a choisi médecine, études vraiment longues, et je l'ai filmé pendant 12 ans. Donc ça s'est fait en fait très simplement, très spontanément, je crois quasiment la veille, j'ai l'impression, de sa rentrée, je lui ai proposé ça. Et donc je l'ai filmé pendant 12 ans, à travers les premières années, c'était plutôt discussion entre nous, après j'ai commencé à filmer ses stages, donc l'apprentissage du savoir, ses réflexions surtout. Parce que c'est sûr qu'il est en médecine, mais ce qui m'intéressait, c'est d'avoir le temps long et le passage de l'enfance à l'âge adulte et tout ça. Donc, quel que soit le domaine qu'il aurait pu choisir, j'aurais quand même filmé. Mais c'est vrai que médecine, c'est assez intéressant de le voir évoluer là-dedans. Et surtout, s'interroger sur la manière d'exercer, en fait. C'est ça aussi qui m'intéressait. Parce qu'il y a plein de manières d'exercer la médecine. Et donc voilà, donc, c'est un film sur le temps.
Quand même une période... avec des modifications, des évolutions, des changements. La période du Covid qui a remis en cause quand même beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Et puis, des politiques santé de différents gouvernements, quelle que soit leur couleur politique, qui ont évolué, mais qui ont plutôt mis à mal le système de santé qui était quand même plus performant qu'il ne l'est aujourd'hui. Donc, je suppose qu'un étudiant... poursuit ses études dans ce contexte-là ne peut pas ne pas être rempli de questions, de ne pas rencontrer de situations de choix, des choses comme ça. Il y a tout ça.
Il y a ça, il y a beaucoup de réflexions en fait. Surtout que mon frère, donc, il est généraliste, hein, c'est pas pour dévoiler le secret, parce que dès le départ, il a envie d'être généraliste. Ce qui est plus intéressant même pour les spectateurs qu'un spécialiste, parce qu'on comprend tous en fait les problématiques des généralistes, on est tous confrontés aux généralistes. Donc il y a plein de questionnements, il y a beaucoup de choses que je découvre. Par exemple, la puissance du doute, en fait, c'est des gens qui doutent un peu tout le temps, on s'en rend pas trop compte quand on est patient de l'autre côté. Mais donc ça, c'est aussi des discussions qu'on a, sur l'empathie aussi, qui sont intéressantes. Donc je découvre en même temps que lui est confronté à ça, quoi. Et c'est sûr que petit à petit, il s'est orienté davantage vers une médecine, disons, sociale. Donc ça aussi, moi, ça m'intéressait. Donc il y a un aspect quand même politique. Là, actuellement, il travaille dans une structure médicale, le Château en Santé, un hôpital associatif dans les quartiers nord de Marseille. Donc ça aussi, c'est une manière différente d'exercer. Et donc voilà, c'est ce cheminement-là qui m'intéressait. Et c'est sûr qu'il y a des hésitations, il y a de l'abattement. Enfin, les premières années sont vraiment horribles, en fait. C'est difficile de réussir à encaisser au niveau du rythme et tout ça. Et donc on passe par toutes ces étapes, ouais, de doute.
Ouais. J'étais en train de dire que le film Toubib serait projeté ce soir à 21h au théâtre. En avant-première, dans le cadre de la 61e rencontre cinéma de Pesnas, mais que ce film serait en salle au mois d'août 2024.
28 août, la sortie nationale.
28 août, sortie nationale. Là, il est fait.
Il est fait.
Il est fait.
C'est une des premières. C'est la deuxième projection de la version finalisée, parce que je fais beaucoup de projections test. La précédente projo, c'était au festival, au FIPADOC, là, à Biarritz, et là, c'est à Pesnas, la deuxième. Donc il y a mon frère qui accompagne ce soir la projection aussi.
En plus.
Et la sortie nationale, elle se fait via aussi l'association MSI Directeurs, en toute indépendance, donc toujours dans le même esprit, qui fait que j'aime bien superviser, disons, les projets, de l'écriture, disons, jusqu'à l'accompagnement en salle. C'est ça que j'aime bien, la cohérence, d'être indépendant du début à la fin.
Dans le film, là, bon, c'est... il y a sans doute une forme documentaire.
Bien sûr, c'est documentaire.
Mais il y a aussi une histoire. Il y a un début et une fin.
Bien sûr. Ah oui, alors la fin, je ne vais pas la dévoiler. Vous l'avez vue? Non, pas encore. Parce que mine de rien, il y a quand même une fin qui est assez marrante, qui est un peu ironique, mais il faut aller jusqu'au bout. Mais en effet, ça aurait pu continuer en fait indéfiniment, parce que je ne me suis pas arrêté à sa thèse. J'aurais pu faire que les études, mais c'est vrai que j'ai fait 12 ans, donc je l'ai filmé aussi quand il est professionnel, installé et tout ça, quoi. Mais à un moment donné, quand même, ça s'arrête, quoi.
Et quand on réalise un travail de ce type-là, quand même, on doit se trouver devant une masse d'enregistrements assez impressionnante. Comment on organise ? Est-ce qu'il y a des choses qui apparaissent en cours de route ? Est-ce qu'on remet en cause, tout à l'heure vous parliez du doute, est-ce qu'on remet en cause certains choix, on les remplacer par d'autres ?
Ah oui, c'est un long processus.
C'est un long processus quand même. Mais c'est un choix.
Mais bien sûr, c'est que des choix en fait. Puis les choix impliquent des sacrifices à chaque fois, d'abandonner pour choisir. Enfin bon. Mais c'est vrai que moi je monte une fois que j'ai fini. Par exemple, je ne regarde pas du tout les images d'année en année et tout ça. Donc j'ai commencé à regarder les images au bout de 12 ans quand j'ai choisi vraiment de commencer le montage. Et là j'avais, disons, entre 250 et 300 heures, je pense, de rush d'images brutes. Et ce que j'ai fait, c'est que en général, je m'isole complètement pendant plusieurs mois, je suis vraiment tout seul, et j'expérimente justement des agencements, des assemblages. En général, je monte séquence par séquence. Par exemple, là, c'était assez facile de faire ça, parce que c'est par exemple stage par stage, il est en réanimation à un moment donné. Donc j'ai par exemple 8 heures sur l'AREA, et à partir de ces 8 heures, je condense en 10 minutes. Donc je fais un montage de ça. Et je peux adapter différents rythmes en fonction des séquences. Il y a parfois des choses très rythmées, d'autres plus en plan séquence, plus lentes. À un moment donné, mon frère, il est parti en Bulgarie faire des études, un échange Erasmus, donc il est resté un an en Bulgarie à Sofia. Et là, je lui ai demandé de se filmer directement en webcam. Donc ça fait une sorte de journal intime, et j'ai récupéré des images après, mais je n'étais pas sur place. Donc ça aussi, à monter, je fais des blocs de montage. Donc il y a plein d'essais. Au début, c'est assez intimidant, parce que c'est vrai qu'il y a énormément de possibilités au début. Mais petit à petit, à force de monter des petits fragments, ils s'assemblent, ça en forme des plus grands, ça exclut d'autres idées. Et petit à petit, la structure, disons, se forme. Moi, elle se forme à partir de petits fragments. Je n'ai pas une idée globale avant d'aborder le montage de ce que je vais faire. C'est en testant petit à petit que ça apparaît, disons.
Et là, on est dans l'utilisation de l'expérience acquise précédemment. Et la question qui me vient à l'esprit, c'est est-ce qu'il y a encore une place pour de la recherche formelle ?
Ah ouais, carrément. Au moment du montage, particulièrement, surtout sur un projet comme ça, parce qu'il y a des projets qui sont plus d'enjeux en prise de vue, des projets sur une courte durée. Mais là, l'idée, c'était d'accumuler sur une très longue période des images, sans savoir vraiment l'usage qu'elles auraient dans le film. Donc c'est au moment de l'écriture, au moment du montage, que vraiment s'écrit le film, se construit. Et là, je peux tester beaucoup de choses. Par exemple, j'ai testé des choses sur de la musique baroque, qui s'est un peu imposée, donc avec du montage aussi très rythmé. Je teste aussi sur des séquences du montage en temps réel. Enfin, en gros, chaque séquence a son rythme propre, et ça permet des expérimentations. Voilà, mais des expérimentations narratives, disons, pour embarquer le spectateur dans cette histoire super longue. Et forcément, le style est varié, parce que la vie est variée. C'est difficile d'appliquer un seul style sur 12 ans de vie, en fait. Donc il y a plein de changements, en fait, constamment.
Oui, comme le cheminement et les choix qui sont faits par votre frère tout au long de cette période-là. Je rappelle le titre du film, Toubib. Il sortira donc au mois d'août, 28 août 2024. Merci, Antoine Page, d'avoir
participé à vous.
Notre compagnie. En espérant que pour les auditrices et pour les auditeurs, cette conversation, l'envie de voir le film quand il sortira, et peut-être aussi de le voir avec un éclairage différent, puisque une meilleure connaissance de votre travail, de la façon dont vous l'abordez, et vous allez nous le proposer bientôt. Merci.
Merci à vous. Au revoir.
Au revoir.